Nos atiende a esa hora uno de los sobrevivientes de Auschwitz, el señor Albert Barbuth. Por favor, Juan Pablo, salúdelo. Él tiene 91 años. Ha estado en más de 30 conmemoraciones de la memoria de Auschwitz. 91 años. Y tal vez es la saludándolo y celebrando que esté vivo, es que nos cuente cómo se salvó de Auschwitz.
Monsieur Albert Barbuth, tout d'abord, on célèbre que vous soyez vivant après une histoire si difficile comme celle de Auschwitz. Et tout d'abord, on voudrait savoir comment est-ce que vous avez pu survivre à la Shoah.
Alors écoutez, monsieur, moi personnellement, je n'ai pas été déporté à Auschwitz parce que j'ai eu la chance, entre guillemets, si vous voulez, que ma mère avait la nationalité turque. Et lorsqu'elle a été arrêtée et qu'elle a sorti son passeport turc dans le camp de Drancy, qui était le camp de transit vers les camps d'Auschwitz, Auschwitz, Sobibor, Majdanek, Treblinka, elle a sorti son passeport turc, elle a dit « je veux rentrer en Turquie ». Et nous avons eu la chance en 1944 qu'on nous mette dans un train et qu'on nous renvoie en Turquie. Voilà la raison pour laquelle j'ai survécu. Parce que vous pensez bien qu'à l'âge de 9 ans ou 10 ans, survivre dans les camps, c'était pratiquement impossible. 1 100 000 enfants ont été assassinés dans les camps d'extermination. Les enfants n'avaient aucune chance à l'arrivée des trains de survivre. Ils étaient immédiatement sélectionnés pour les chambres à gaz et les fours crématoires.
Pues nos dice el señor Barbuth que en realidad se salvó por el pasaporte de su mamá, porque él ya estaba listo para ser ingresado o deportado hacia el campo de Auschwitz cuando la mamá, que tenía nacionalidad turca, sacó su pasaporte. Y entonces, en lugar de dirigirlo a Treblinka o a Sobibor o a Auschwitz, terminaron logrando que los montaran en un tren dirigiéndolos a Turquía. ¿Por qué? Porque en ese momento Turquía se había presentado como un país neutro y entonces a ellos no podían haberlos llevado directamente a los hornos. Y dice él, si no, para él sobrevivir habría sido imposible, porque un niño de 9 o 10 años, como lo era él en ese momento, sencillamente era seleccionado de primero y no tenía ni siquiera que pasar por los trabajos o por las barracas, iba directamente al horno.
Aparte de las escenas que conocemos en la historia, ¿qué le queda a usted como recuerdo general de aquella época que tuvo que vivir junto a su familia?
Dans ces moments que vous avez dû vivre à cet instant-là, qu'est-ce que vous a choqué, qu'est-ce que vous a impressionné le plus?
Le plus, vous savez, c'est à partir de la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1940, quand la France a été divisée en deux parties, la partie au nord occupée par les Allemands et la partie sud dite libre, gouvernée par le gouvernement de Vichy collaborationniste, sont apparues ce qu'on appelait les ordonnances sur le statut des Juifs. Nous n'étions pas une famille particulièrement pratiquante, si bien que moi, à cet âge-là, à 7 ans, 8 ans, je ne savais pas ce que pouvait vous dire le terme « juif ». Et puis, les fameuses ordonnances sur le statut des Juifs, qui enlevaient petit à petit toutes les possibilités pour les Juifs de travailler. Il était interdit de pratiquer une profession libérale, il était interdit de posséder un poste de radio, de posséder une bicyclette, de posséder quoi que ce soit, que sur les parcs pour enfants, il y avait des inscriptions où il était inscrit interdit aux chiens et aux juifs. Et puis, petit à petit, d'autres ordonnances sur le statut des Juifs, avec l'interdiction de fréquenter les cinémas, les concerts, les salles de spectacle, Et puis est arrivé au mois de mai, début juin 1942, une nouvelle ordonnance qui obligeait les Juifs à porter sur leurs vêtements une étoile jaune avec l'inscription « Juif ».
Oui.
Et à ce moment-là, moi, on m'a inscrit ça sur mon tablier d'écolier.
Oui.
Et d'un seul coup, je n'ai plus eu de copains. Je ne pouvais plus jouer avec personne. Le professeur ou l'institutrice m'a mis au fond de la classe. Et voilà.
Oui.
Et ma mère, à ce moment-là, a compris qu'un jour ou l'autre, on allait nous arrêter. Et elle a fait la connaissance d'une dame qui travaillait à l'assistance publique, qui lui a dit « Donne-moi les deux aînés et je vais essayer de leur trouver des familles, des familles d'accueil qui les gardent. »
Monsieur Babou, permettez-moi, je vais faire une rapide traduction de vos propos, s'il vous plaît. Pues bueno, nos dice que para él el momento sin duda más impactante fue en 1940, cuando Alemania invade Francia. Y se emite inmediatamente una norma que fue la que poco a poco empezó a quitarles todos los derechos por el solo hecho de ser judíos. Entonces, poco a poco les fueron prohibiendo tener un radio, luego les prohibieron tener trabajo a sus padres, luego les prohibieron tener bicicletas y se las iban confiscando, al punto que ya les prohibían era estar en el espacio público. Entonces había parques en donde decía prohibido el ingreso de perros y de judíos. Y luego llegaría el año 1942, cuando se convirtió en obligatorio para todas las personas de la comunidad judía en Francia el portar la estrella amarilla tejida o cosida en la chaqueta o el suéter que estaban utilizando, incluyendo el que él usaba en aquel entonces para ir al colegio. En ese momento se le acabó la vida. Cuenta que ya nunca más volvió a tener amigos, no hablaba con nadie, la profesora lo sentó al fondo y ni siquiera existía. Y fue ahí cuando apareció una vecina, una amiga, y le dijo a su mamá, deme a sus dos hijos mayores, voy a tratar de ubicarlos en familias que los cuiden, y a ustedes pues les deseo mucha suerte.
Desde París me gustaría preguntarle, con todos estos horrores que ocurrieron hace 80 años y el trabajo que se ha hecho durante estos años como una asociación como la que él dirige, ¿cómo se explica que hoy en día en Francia hemos llegado a un récord de actos antisemitas, 1570 actos tan solo en el año pasado?
Monsieur Barbeau, mais étant donné l'horreur que vous avez vécu et bon, des millions de personnes ont vécu lors de la Seconde Guerre mondiale. Comment comprendre qu'aujourd'hui, en France, on soit en train de vivre une réalité dans laquelle les actes antisémites soient à nouveau en train de battre des records?
Je vais vous dire, de toute manière, ces choses qui se produisent à l'heure actuelle sont le fruit d'années concrètes depuis les années 1980 où sont apparus les négationnistes qui ont dit qu'à Auschwitz on tuait que les poux. Et c'est à ce moment-là que les quelques survivants des camps d'extermination ont commencé seulement à parler. C'est à ce moment-là seulement qu'ils ont commencé à dire si on tuait que les poux à Auschwitz, où sont passées toutes les têtes qui portaient ces poux. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont commencé à témoigner dans les établissements scolaires en priorité pour dire ce qu'elles avaient vécu. Avant, elles ne parlaient pas. Moi, j'ai commencé à travailler avec eux pendant ces années-là, les années 80. Je les accompagnais dans les témoignages qu'ils faisaient auprès des élèves des collèges et des lycées et pour raconter leur vécu. Petit à petit, malheureusement, les déportés, ces survivants ont disparu. Et moi, personnellement, a continué à transmettre pour que je n'oublie ces personnes. Malheureusement,
Bon, Monsieur Babout, Je vous remercie de nous avoir accompagné ce matin à la W Radio. Une bonne journée, surtout une journée très importante pour nous. Faire de la mémoire. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Pues, Florencia, a su pregunta dice, mire, es que algo ha ocurrido después de la década del 80, y es que empezó el negacionismo. Antes se daba por hecho lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. En la década del 80 empezaron a crecer más y más grupos que negaron lo que ha ocurrido, y entonces empezaron a organizarse grupos, asociaciones como la que él lidera, de personas que lograron escapar y que tenía que contar la verdad para ir en contravía de esos discursos que se llegaron a construir, que señalaban que en los campos de concentración lo máximo que se mataban eran las pulgas. Entonces aparecían los supervivientes a decir, bueno, ¿y dónde están las cabezas a las que tantas pulgas les mataron? Y es eso, la tarea que se sigue haciendo, aunque cada día son menos los supervivientes, y por eso, dice él, es más difícil contrarrestar ese discurso negacionista que es el que lleva a las expresiones que usted destaca.